Parfois, on a l'impression que tout a été raconté, montré sur les migrants et pourtant, eux ne nous ont pas encore tout dit. C'est cette parole manquante, celle de ces réfugiés qui peuplent les écrans de nos télévisions et les trottoirs de nos rues que France Culture vous propose d'écouter tout au long de la semaine avec 4 épisodes exceptionnels de la série documentaire diffusée à 17h. Vous les avez tournés, comme on dit dans le jargon, Raphaël Kraft. Vous avez fait ces reportages sur l'Aquarius, un bateau donc chargé de sauvetage en mer. Et puis à côté de vous se trouve Delphine Coulin qui est romancière et cinéaste et vous publiez Une fille dans la jungle sur la condition de ces migrants, de ces très jeunes migrants dans la jungle de Calais. On va écouter un extrait de votre reportage à Raphaël Kraft, Khalid, un migrant marocain qui raconte l'angoisse de la traversée.
Vraiment c'est très dur, très dur, très dur. Je t'expliquerai jusqu'à demain matin. Vous pouvez pas. Quand tu vois tes enfants côté de toi, l'eau qui monte, le désert de la mer, ta femme pleure, les autres femmes pleurent. Tu dis mais qu'est-ce que tu as, Khalid? Tu as perdu connaissance? Comme ça, tu amènes tes enfants pour les tuer à la mer, gentiment? Toi, tu as passé 58 ans de ta vie, et maintenant, pour finir, tu viens, tu tues tes enfants, et tu meurs avec eux, admettons. Je me suis dit, si tu veux mourir, Khalid, fais-le seul. Ne amène pas tes enfants. Fais-le seul au moins.
Raphaël Kraft.
Oui, Khalid, c'est un citoyen marocain qui est arrivé en Libye il y a 15 ans, et c'est l'ancien chauffeur de l'ambassade de France. Et lorsque, en 2015, les services diplomatiques occidentaux ont quitté la Libye, dont la France, l'ambassadeur de France lui a promis qu'il reviendrait, et ils ne sont toujours pas revenus. Donc, son fils a été kidnappé au mois de juillet dernier, et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de partir, et également parce que, dans cette entreprise du kidnapping, on cherche aussi des prétextes à kidnapper. Et comme Khalid avait conduit beaucoup de voitures diplomatiques lors de ses services pour l'ambassade de France, eh bien, il était soupçonné par les uns et les autres de collusion et de faire du renseignement pour les Français. Et donc, il a dû partir. Et il aurait pu rentrer au Maroc, mais il n'a rien au Maroc. Et la route pour aller de la Libye au Maroc est tout aussi dangereuse, sinon plus dangereuse. Et donc, il a décidé d'emmener sa femme et ses enfants sur le bateau. Pourquoi y est-il allé ? Parce que un passeur lui a dit que ça allait bien se passer. Parce que un passeur lui a dit que il pourrait lui vendre des gilets de sauvetage. Mmh. Mais Khalid avait déjà des gilets de sauvetage, puisque le conseiller économique de l'ambassade de France lui a laissé ses gilets de sauvetage avant de partir.
Mais c'est une situation effectivement épouvantable, une situation qui se poursuit malheureusement une fois que leur voyage est arrivé jusqu'à son terme, Delphine Coulin. C'est ce que vous racontez dans Une fille dans la jungle, avec là aussi peut-être des choses que les Français finalement ignorent.
Oui, parce qu'on croit que justement le plus dur est fait une fois qu'on pose le pied en Europe. Et finalement, il y a un autre chemin, un autre parcours du combattant à faire. Et un parcours du combattant qui est de plus en plus difficile, puisque actuellement, la situation à Calais, mais aussi à Paris, est de plus en plus compliquée pour les migrants qui ne peuvent pas dormir. Enfin, on les réveille toutes les heures.
Je pense que c'est important de rappeler qu'il y a à la fois une loi en France et que cependant, cette loi est violée.
Oui, parce que les gens sont accueillis ou pas. Il y a pas vraiment de politique d'accueil, en fait. Ce qui fait que quand vous voulez demander l'asile, vous êtes face à un temps d'attente très long, ou vous cherchez à essayer de ne pas être enregistré en France parce que vous visez l'Angleterre. Et ça, à cause des accords de Dublin, quelqu'un qui donne ses empreintes digitales en Italie ou en France ou dans un autre pays d'Europe, en Bulgarie par exemple, et qui vise l'Angleterre, tout son parcours va être compliqué après.
Avec quelles conséquences justement?
Parce que si vous avez donné, en fait les accords de Dublin, c'est que si vous avez donné vos empreintes digitales dans un pays, vous devez demander l'asile dans ce pays. Mais si vous voulez rejoindre des cousins en Angleterre, parce que c'est les seules personnes que vous connaissez en Europe, et qu'on vous emmène en Italie alors que vous n'y connaissez personne, vous connaissez pas la langue, enfin tout va être beaucoup plus compliqué. Et donc ces accords de Dublin sont à dénoncer parce que ça enferme les gens dans des situations qui sont impossibles.
Des situations impossibles et une pauvreté des structures d'accueil en France, à Paris, avec des promesses qui n'ont pas été tenues, avec là aussi des atermoiements qu'on a un peu du mal à comprendre, Delphine Coulin.
Oui, parce que par exemple, le centre de la Porte de la Chapelle qui a été mis en place par la mairie de Paris et qui était géré par Emmaüs et Utopia 56, en fait, tout s'est mal passé, d'une part parce que les gens qui étaient dans ce centre, enfin qui sont dans ce centre, doivent se faire enregistrer là. Et on s'est rendu compte que petit à petit, les gens qui se faisaient enregistrer là, étaient soit mis en rétention, soit, enfin, c'était une manière aussi de les coincer. Donc du coup, les gens n'ont plus voulu, ces personnes n'ont plus voulu se faire enregistrer là et se sont retrouvées à la rue. Et dans le même temps, une répression policière s'est mise en place tout autour du centre, justement, où on a vu des policiers empêcher les gens de dormir, gazer des aliments ou gazer de l'eau, et puis emmener des gens dans des centres de rétention. Donc, ces deux logiques ensemble ont fait que les gens se retrouvaient soit coincés, soit enfermés.
Est-ce que vous diriez, Delphine Coulin, qu'aujourd'hui, le volet répressif en France est plus important que les structures d'accueil ?
Oui, il n'y a pas vraiment de structure d'accueil. Enfin, il y a les centres d'accueil et d'orientation où on se rend compte que tout se passe bien, d'ailleurs. Parce que une fois qu'il y a une relation personnelle entre des citoyens français et des migrants, dès lors qu'il y a une rencontre humaine, évidemment, tout se passe bien. Ça tombe sous le sens, mais on l'oublie un peu trop souvent. Mais à côté de ces centres d'accueil et d'orientation qui ne sont pas assez nombreux et qui ne sont pas assez organisés, il y a une politique un peu floue, c'est le moins qu'on puisse dire, où les gens sont livrés à eux-mêmes et où il n'y a pas de vraie politique d'accueil, comme par exemple en Allemagne ou au Portugal. Au Portugal, on a vu une vraie politique d'intégration se mettre en place, qui fait que en 2014, ils ont reçu 5000 migrants, en 2015, 10 000, et ça augmente parce qu'on accueille vraiment les gens. Les premières semaines, on leur donne un logement gratuit, on leur donne des cours de portugais. Enfin, il y a une vraie politique de mise en place d'intégration qui fait que ça fonctionne.
Ce qui veut dire aussi que ces migrants qui arrivent en France, dont vous décrivez la situation, Delphine Coulin, et qui était à votre micro, Raphaël Kraft, pour eux, bien souvent, l'arrivée sur notre territoire, c'est le moment de la désillusion. On va écouter Ibrahim, un réfugié somalien qui est arrivé en février 2013.
La France n'est pas la France que tu vois à la télé ou que tu entends là-bas en Italie. Ici, les Français sont plus mauvais que les autres pays européens. Il n'y a pas une prise en charge, personne ne vient te voir. Tu vas te trouver un pain, tu le manges. Et demain, tu vas rester toute la journée affamé jusqu'à 18h. S'il y a une association qui vient distribuer à manger, dans ce cas, tu trouveras à manger. S'il n'y en a pas, soit tu vas manger à certaines personnes ici, soit tu vas attendre. Et c'est ce qu'on a vécu pendant plus de 20 jours, on était là. Il y a des associations qui viennent souvent avec de petites voitures, avec des repas de 200 personnes alors qu'on était 700. Ce n'était pas suffisant, il y avait la bagarre. Bon, personne ne veut rester affamé. Et il y a même ceux qui prenaient 400-500 sandwichs qui s'enfuient avec pour les garder et manger plus tard. Il y a d'autres qui restent toute la journée affamés et d'autres qui trouve quand même de quoi manger. C'était vraiment difficile.
Un extrait du reportage de Raphaël Kraft. Delphine Coulin, vous le décrivez dans Une fille dans la jungle. La première chose à laquelle sont confrontés ces migrants, c'est terrible, mais c'est la faim.
Oui, et quand on est dans la survie, on devient impitoyable. C'est ce que disait Raphaël tout à l'heure en disant que dans un bateau, on est capable de mordre pour essayer de respirer. Ou là, on est capable d'arracher un paquet de gâteaux à un autre migrant parce qu'on crève de faim. Et c'est quand on est dans la survie, on devient impitoyable. Mais qui est le plus inhumain des deux ? Celui qui se conduit comme un animal parce qu'il veut juste continuer à vivre, ou celui qui contraint l'autre humain à vivre dans des conditions pareilles. Et une chose, je pense qu'il faut, je pense que les gens ont l'impression d'avoir tout entendu ou tout vu sur les migrants, mais parce qu'ils se mettent peut-être pas assez à leur place. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une réponse par un roman. C'est que je pense que tant qu'on ne se met pas à la place de quelqu'un qui doit traverser des pays dont il connaît pas la langue, qui doit donner tout son argent à un trafiquant qui vous traite comme de la marchandise, qui doit monter dans un bateau en sachant pas nager et sur une barcasse qui doit traverser la Méditerranée. Tant qu'on ne se met pas à la place de l'autre être humain, alors on ne peut pas en discuter vraiment. Et je pense que le roman a cette possibilité-là. Et les reportages aussi. Enfin, je pense que toutes les paroles doivent s'élever parce que la situation devient inextricable et on est en train de vivre la plus grande tragédie humaine depuis la Deuxième Guerre mondiale en restant passif.
Raphaël Kraft, est-ce que justement ces témoignages qu'on vient d'entendre, Ibrahim, Khalid, qui sont des gens qui nous ressemblent quand même profondément, un chef de famille, un jeune, est-ce que ces reportages témoignent d'une situation qui mérite d'être dénoncée en France ?
Sur l'Europe, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé lorsque j'étais à bord de l'Aquarius, c'est quelque chose que j'ignorais, c'est que lorsque les personnes sont sauvées en mer et qu'ils arrivent sur l'Aquarius, on est face à des survivants. Donc des survivants de l'enfer libyen, des survivants de la mer Méditerranée. Et ils arrivent sur le bateau, pour ce qui était de mon cas, le jeudi 14 septembre, dans l'après-midi. Et le samedi matin, on arrive dans le port de Catane. Et il y a ce sentiment que pendant 24 heures, 36 heures, c'est comme une parenthèse, c'est comme un répit où pendant ces 36 heures de leur vie, ils vont partager un moment de bonheur. Beaucoup sont traumatisés, hein, mais ils ne savent pas du tout ce qui les attend en Europe. Et lorsque le bateau arrive, là en l'occurrence dans le port de Trapani le samedi matin, vous arrivez sur le quai. Vous avez la Guardia Civile, vous avez la Croix-Rouge italienne qui dépend là-bas du ministère de l'Intérieur, vous avez tout le ministère italien de la Santé, le bateau est en quarantaine, et soudain, lorsqu'ils vont descendre du pont et qu'ils pensent qu'ils arrivent à destination, ou en tous les cas, ils ont été sauvés, c'est effectivement un autre enfer, en rien comparable avec ce qu'ils ont vécu en Libye, mais ça va être l'attente, ça va être d'être incapable de mettre un terme, en tous les cas provisoire, à son exil.
Delphine Coulin.
Oui, ils viennent quand même à cause des valeurs qu'on érige, qui sont l'éducation pour tous, qui sont l'égalité homme-femme, qui sont la liberté de penser. Ils viennent pour les valeurs européennes. Et dès qu'ils posent le pied sur le sol européen, ils se rendent compte que nous ne sommes pas à la hauteur de nos valeurs. Et à un moment donné, c'est aussi à nous de nous dire, est-ce qu'on a bien conscience de ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que on n'a pas plus intérêt, nous aussi, à être à la hauteur de nos valeurs, à les inclure dans ces valeurs, les vraies valeurs démocratiques, européennes, d'égalité, de liberté, et du coup, d'avancer tous ensemble vers un monde meilleur, ou est-ce qu'on préfère les exclure, les enfermer, les expulser, du coup, nous, ne pas être à hauteur des valeurs qu'on est censé défendre, et du coup, s'en faire des ennemis, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui peut se produire.
Mais
aussi.
Alors, justement, c'est ça qu'il faut dire, et peut-être allez-vous réagir à cet égard, Delphine Coulin, parce que d'un côté, on a des réactions de peur qui peuvent être des réactions légitimes, puisqu'après tout, l'inconnu, on ne sait pas qui on va accueillir, il y a le contexte du terrorisme qui complique la chose. Est-ce que nous avons, nous, Européens, raison d'avoir peur de ces gens-là ? Comment ça se passe ?
Bien sûr que non. Déjà, on ne va pas refuser l'asile à des milliers d'hommes et de femmes en situation de grand danger, parce qu'il risque d'y avoir une crapule au milieu de ces milliers-là. En plus, on sait très bien que parmi les terroristes qui nous ont attaqués, beaucoup d'entre eux étaient français, donc la question ne se pose même pas pour eux. Donc il ne faut pas tout mélanger. Et par ailleurs, je pense que on peut chacun faire un mouvement vers l'autre. Je pense que les gens se désintéressent de cette question parce qu'ils se disent « je ne peux rien y faire ». Et que c'est prouvé, hein, y a des psychologues américains qui ont prouvé que le cerveau a un réflexe de protection, où quand il se dit « je ne peux rien faire de ce problème », il s'en détourne. Je pense qu'il faut expliquer aux gens que chacun d'entre nous peut faire un petit geste. Déjà, un regard de compassion, ce serait pas mal. Mais même autrement, chacun à son niveau peut donner des vêtements, donner de l'argent, évidemment, aller sur le terrain, aider les associations quand on le peut, donner des cours de français, faire un accompagnement en préfecture, faire un trajet en voiture. Tous ces petits gestes-là font que si on va vers l'autre, alors on n'en a plus peur parce qu'on se rend compte que l'autre, c'est un autre moi-même. Et d'ailleurs, chacun d'entre nous a un père ou un grand-père étranger. Et si on se dit face à un migrant, c'est moi ou c'est mon père, mon grand-père ou c'est mon fils, alors toute peur s'évanouit.
Alors justement, il y a quand même quelque chose de très rassurant dans vos reportages, Raphaël Kraft. C'est l'accueil, puisque donc vous êtes allé à Saint-Étienne-de-Bégory, un petit village à côté de Bayonne. Et là, on se rend compte que finalement, cet accueil, ça se passe plutôt bien. Je vais vous faire entendre Anton, qui est un prof d'histoire géo à Bayonne. Un prof d'histoire géo pour qui cet accueil, finalement, ça s'est plutôt bien passé.
Il y a des gens ici qui étaient très hostiles, par principe, par xénophobie, à l'arrivée des migrants. Et quand ils les ont vus, quand ils ont vu ces jeunes gars, parce qu'il y avait que des garçons, ces jeunes gars qui passaient dans la rue, qui écoutaient de la musique, qui les saluaient, parce qu'ils étaient très polis, qui les saluaient, et dès qu'ils ont appris à saluer en basque, qui les saluaient en basque, tout tombe. Et ces gens-là, d'une posture où ils étaient sur la défensive et le refus, ils sont passés à dire, ah, mais c'est des jeunes gens très polis, etc. Et donc je sais pas comment dire, c'est une xénophobie, naturelle, entre guillemets, ou instinctive, celle-là, on peut la faire tomber. On peut la faire tomber chez beaucoup de gens. Par contre, le racisme idéologique, celui-là, il bouge pas. Il bouge pas, celui-là. Et les racistes qu'on a dans le village, ils sont restés racistes, ils bougeront pas.
Ça. Alors, si on met de côté les racistes, Raphaël Kraft, on se rend compte finalement qu'il y a eu pas mal de polémiques au moment donc de l'accueil de ces réfugiés, bien souvent dans des petits villages, un peu partout en France. Et finalement, quelques semaines plus tard, on se rend compte que les choses se sont bien passées et que le climat est parfaitement apaisé.
Alors, effectivement, vous parlez de polémiques qui ont eu lieu lorsqu'il y a eu les accueils dans les villages depuis 2015. Cependant, c'est parce que l'extrême droite a fait du bruit lors de l'arrivée des migrants. Et donc, nous avons très souvent eu, je pense à la Bourgogne, je pense à la région parisienne, des manifestations d'extrême droite, des identitaires notamment, où une dizaine, quinzaine, vingtaine, trentaine de personnes venaient faire du bruit, et donc ameutaient les médias, et qui ne rendaient pas compte de la réalité, finalement, de l'accueil. On a énormément de personnes, que ce soit, je sais pas, à Cancale, à Saint-Étienne-de-Baïgorry, dans le Gard, dans l'Hérault, et notamment sur le trajet de ces migrants. Si vous allez dans la vallée de la Roya, si vous allez dans le quartier de la Chapelle, si vous allez à Calais, vous vous rendrez compte qu'il y a il y a énormément de militants qui sont présents, et pas seulement des militants. Et je crois qu'il est important aussi de rappeler que la question des réfugiés est clivante, mais ne suit pas les mêmes clivages politiques.
C'est-à-dire?
À savoir que vous allez trouver des gens de gauche en faveur de l'accueil des réfugiés, avec des gens de droite, et de l'autre côté, des gens de droite et des gens de gauche qui ne sont pas en faveur de l'accueil des réfugiés. Une étude sur les catholiques français a très bien démontré que, de part et d'autre, vous alliez trouver des cathos sociaux, des cathos tradis qui veulent ou non accueillir des réfugiés.
Mais, ouais, et d'ailleurs, le pape a fait au mois d'août une liste de 21 points. C'est comme une liste de courses pour des gouvernements qui voudraient enfin prendre à bras le corps cette question. Et franchement, c'est une espèce de feuille de route très détaillée, très, très pragmatique, qui aiderait tout le monde à accueillir mieux ces gens.
Avec des questions qui relèvent de l'urgence, vous en parlez dans votre roman Une fille dans la jungle, des questions qui relèvent de l'urgence tout simplement, parce que là encore c'est important de le répéter, il y a des lois, et si ces lois ne sont pas appliquées, donc là il ne s'agit pas de faire preuve de compassion ou de se montrer particulièrement charitable, il y a des mineurs qui sont en situation donc d'être complètement isolés aujourd'hui sur le territoire, et ça n'est légalement pas acceptable.
Non, la Convention internationale des droits de l'enfant dit que tout enfant, quelle que soit sa nationalité, doit être mis sous protection. Et en France en particulier, on n'a pas de raison de ne pas le faire. Il y a 10 000 enfants qui ont disparu en Europe au cours des deux dernières années. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce roman, pour donner à 6 d'entre eux une histoire.
Qui se déroule, comment je veux dire, lorsque on part d'une situation où on est dans la jungle de Calais avec des questions qui relèvent de la survie, puisqu'il ne s'agit pas de vie, mais d'une forme extrêmement dégradée d'existence, comment les choses peuvent se dérouler ensuite, Delphine Coulin ?
Ben là, j'ai donc Awa qui est une jeune fille de 15 ans, avec ses 5 copains, tous ils ont entre 7 et 18 ans, la jungle est démantelée, ils décident de rester là malgré tout, parce qu'ils se disent qu'il y aura peut-être moins de contrôle, ils vont peut-être plus facilement se glisser dans un camion pour l'Angleterre. Et là, la jungle est démantelée, ça devient un désert. Ces 6 petits personnages essayent de trouver un moyen de ne serait-ce que de s'installer quelque part. Et là, ils sont chassés de toutes parts, c'est-à-dire ils vont dans un box pour chevaux, ils en sont chassés par les propriétaires. Du coup, ils retournent dans la jungle parce que c'est la seule réalité qu'ils connaissent depuis plusieurs mois. Et là, c'est les policiers qui les expulsent. Et finalement, ils se retrouvent dans un trou, une espèce de terrier, parce qu'on en arrive à des situations comme ça, de survie presque animale. Et si vous voulez, c'est de la survie. Comment vous faites quand vous habitez dans un trou d'égout sous la terre? Comment vous faites pour vous laver? Comment vous faites pour manger? Comment vous faites pour boire quand vous êtes un enfant? Et comment vous faites, du coup, pour échapper à tous les trafics, tous les trafiquants et tous les passeurs qui vous voient comme une proie vulnérable?
Vous parlez de la boue et de cette forme de vie. Moi, en lisant votre roman, effectivement, j'ai pensé au récit de la guerre de 14-18 dans les tranchées, où on avait effectivement ce type d'existence. Un dernier extrait de votre reportage, Raphaël Kraft. On va écouter Hubert Jourdan, qui est militant de l'association Habitat et citoyenneté dans les Alpes-Maritimes.
Ils en ont marre qu'on leur mette une étiquette de réfugiés sur le front en permanence. Il faut bien se dire que je pense que, je sais pas, la population française, peut-être 5% de la population française ont été en contact avec les réfugiés vraiment, et les connaître. Donc ils ont une espèce de représentation cathodique et politique, de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on raconte, quoi, je veux dire. Et là, je mets en cause véritablement moi le travail des journalistes là-dessus, quoi, parce qu'ils ont fini par créer une image ahurissante. Ça se termine, on croirait qu'ils arrivent d'une autre planète en masse et qu'ils vont envahir, alors que bien sûr que non.
Un dernier extrait de votre reportage, Raphaël Kraft, qui a été réalisé, je le précise d'ailleurs, par Guillaume Baldi, qu'on va pouvoir entendre dans la série documentaire à 17h sur France Culture, avec peut-être l'occasion de faire un mea culpa pour nous autres journalistes, ou en tout cas quand on a entendu Hubert, on s'est dit, bah voilà, peut-être qu'il faut faire entendre ces migrants et montrer que ce sont des gens comme nous, malheureusement pas nés du bon côté peut-être de la Méditerranée.
Oui, je crois que c'est une affaire d'image. Il n'y a pas de mea culpa à faire lorsque vous avez des personnes qui traversent les plaines des Balkans sous la pluie ou sous la neige et qu'on les filme. Effectivement, alors déjà, ça, c'est biblique. Et d'autre part, lorsqu'ils arrivent à Paris et qu'ils dorment sous les ponts, ils sont clochardisés. Et alors que nous faisons face à des personnes qui, non seulement, ont vécu des choses dramatiques, mais en plus nous ressemblent. En ce sens que nous sommes face à des personnes qui appartiennent très souvent à des catégories socio-professionnelles supérieures, qui ont un niveau d'éducation assez élevé, et qui sont stupéfaites de se retrouver dans cette condition, qui ne s'attendaient pas à être traitées de la sorte. Et donc oui, il faut changer d'image, et peut-être révéler des parcours, et cesser de les qualifier de réfugiés quand ils sont docteurs, contremaîtres, ou que sais-je encore.
Enfin, en tout cas, lorsque on entendait Khalid, ce chef de famille qui se retrouvait donc après la traversée à se demander pourquoi il avait fait vivre ça à sa famille, on avait toute possibilité de s'identifier à lui. Un mot de conclusion, Delphine Coulin.
Oui, c'est vrai que c'est l'identification qui permet ça. Je pense que quand il y a eu tout le mouvement populaire après la photo du petit Elan échoué sur une plage, c'est ça qui s'est produit, c'est qu'on voyait plus un petit migrant, on voyait un enfant de 3 ans et demi qui était semblable au nôtre. Et je pense que si à chaque fois qu'on croise un migrant dans la rue, on a ce regard d'humanité, alors on est plus à la hauteur de ce qui est en train de se passer actuellement dans notre pays.
C'est l'exercice d'empathie auquel vous êtes livré dans votre roman Une fille dans la jungle, publié chez Grasset.